Salut tout le monde, c'est Richard. Quel plaisir de vous retrouver pour démarrer le week-end, un week-end de 3 jours qui plus est. C'est la Pentecôte, on est ensemble pour une bonne heure de tennis, c'est votre rendez-vous pleine balle. Alors oui, c'est la Pentecôte ce week-end, mais c'est pas tout. Vous la sentez cette petite odeur, ce fumet de terre battue parisienne ? Fouetté par les semelles de ces joueurs, joueuses professionnelles qui débarquent tous avec l'envie, avec le rêve de bien faire, Roland Garros démarre et va nous embarquer sur les nuages de la passion, sur la route du bonheur. Alors évidemment, on va en parler ce soir, on va regarder ensemble les tableaux qui sont sortis hier. On fera aussi un retour sur les tournois de ces derniers jours, notamment le Masters 1000 de Rome avec le coup de maître de Sinner, mais aussi la superbe performance d'Elina Svitolina. On mettra aussi un coup de projecteur sur Carolina Mourova et on prendra le temps d'analyser le parcours en qualification sur les cours de Roland ces derniers jours de notre jeune pépite normande, Danielle Jade. Allez, zou, on se lance, pleine balle, c'est parti.
On a une période où on joue moins bien parce qu'on réalise. Et là, j'étais vraiment sur un nuage pendant 3 jours.
That's good stuff. All out of tech from Federer. Émission un petit peu particulière ce soir pour plusieurs raisons. Déjà, notre Gailuron préféré, notre Simon National, est absent ce soir. Ouais. Il a une vie trépidante désormais. Ça devient compliqué de l'approcher, de le toucher. Non, j'ai l'impression qu'il n'est plus très humain. Et j'ai comme l'impression aussi qu'il quitte le nez, le nid, notre petit moineau. Et ça nous fend le cœur. Mais peut-être qu'il reviendra.
J'espère.
Qui sait,
pas mal
Simon, je pense qu'il nous écoute. Il doit être sur la route, là, dans son bolide, dans sa Twingo de folie. Voilà, en tout cas, il le sait, la porte est grande ouverte. Elle l'a bien franchie, cette porte. Elle est bien présente, toujours à l'heure. Enfin, vite fait, mais ça passe quand même.
Comment ça,
c'est Marine. Ouais, je t'ai vu arriver à -2, là.
Oh, ça va.
Connaît.
Il fait chaud, c'est pour ça.
T'as de la marge, écoute.
Ça me ralentit.
T'es venu comment, là?
En tram.
En tram. Il faisait chaud dans le tram.
Ouais. Mmh. Oh, il fait chaud partout là, de toute façon.
On lance un appel peut-être à la mairie, à l'aglo, la clim dans le tram.
J'attends mon chauffeur aussi, il est toujours pas là. Je sais pas ce qu'ils font.
On va leur passer un petit coup de fil avant la fin de l'émission. Et autre point un peu particulier pour cette émission, c'est qu'on a un homme qui est partout ce soir. Il est au four et au moulin, à Question pour un champion et à Slam. Il sait se multiplier. Ce soir, il est au micro et à la technique en même temps. Comment fait-il? Salut Enzo.
Bonjour, bonjour.
Et en plus, on l'entend bien, voilà.
Ah, c'est beau.
Il est à l'autre bout. On est vraiment. J'ai l'impression qu'on a un mur de Berlin entre nous, là.
C'est un peu ça, ouais. J'ai l'impression d'être en prison, un petit peu.
On est si près, mais si loin.
Il est
si loin,
c'est ça.
Dans la régie, là-bas, on a une pensée émue pour Émile.
Évidemment.
Même. Voilà, mais voilà, une émission à 3 entrecoupée par cette vitre.
Une émission à 2,5.
À 2,5.
Exactement, à 2,5. Bon, on n'est pas à l'abri d'un petit bug ce soir.
Je vais faire de mon mieux.
Mais on y croit, voilà. Mais en tout cas, on est très heureux de faire cette émission tout de même dans ces conditions vraiment royales, et ça va le faire.
Mais
bien sûr, on le rappelle, nous sommes en direct, messieurs, dames.
Oui.
Merci la radio, merci Phoenix pour ces moments d'émotion et de grande intensité. Eh ben ça y est, on y est. Roland Garros 2026 a commencé. Enfin oui, les qualifs, mais on peut dire que le tournoi est lancé quand même.
Oui.
À nous, les journées devant la télé, les boutades de Laurent Luya, les excentricités de Mikhail Yodra, les glissades qui font vibrer les adducteurs, les amortis qui s'écrasent, les gros lifts qui giclent, le tennis porte d'Auteuil, c'est quand même nulle part ailleurs qu'on le retrouve.
Ah ouais.
C'est que là-bas que ça se passe.
Ouais. C'est vraiment une belle période.
Je te vois avec tes yeux qui pétillent.
Ça
déjà,
pétille. Ah bah ouais. Trois meilleures semaines de l'année.
On va attendre dimanche pour les premiers matchs du tableau principal, mais évidemment, on va parler de Roland dans ce numéro de pleine balle. Mais avant toute chose, un mot sur le grand absent de Roland Garros, blessé au poignet, Carlos Alcaraz. On a eu des nouvelles ces derniers jours. Carlito, qui va devoir rester en dehors des terrains pendant un petit moment, il a annoncé son forfait pour Wimbledon.
Ouais.
Alors on espère qu'il va réussir à s'en remettre de cette opération là. Le poignet, on rappelle, quand même une zone très sensible et utile quand on joue au tennis.
Ouais, c'est clair.
Voilà. Tu disais juste avant que l'émission commence là, hors antenne, on le sentait venir, ça fait un peu peur.
Bah oui, sachant que du coup il a dit qu'il faisait l'impasse sur toute la tournée gazon.
Bon, qui est pas très longue.
Elle est pas très longue, on est bien d'accord. Elle se limite globalement au tournoi du Queen's et Wimbledon, mais. Ça fait quand même une grosse impasse. Et après, juste derrière, on a quand même l'US Open qui est pas très très loin. Donc ça fait beaucoup de matchs manqués pour un Carlos qui va revenir potentiellement à l'US Open, on espère quand même, avec quoi, 3 mois, 4 mois sans tournoi. Donc c'est quand même quelque chose qui peut poser problème.
T'as déjà fait 3 mois sans compète, toi, Marine?
Ah ouais.
Est-ce que t'as réussi à revenir? C'est ça,
horrible,
la question.
Horrible, voilà, horrible. C'est non, évident, c'est dur,
quoi.
C'est vraiment dur.
Pas évident. Non, non, mais ça fait un peu peur parce qu'on l'a dit, on le répète. Bon, le poignet, c'est quand même, c'est pas une bonne nouvelle, quoi, quand on se blesse dans cette zone-là, à cet endroit-là. Et c'est vrai que ça fait un peu peur. D'abord Roland, maintenant Wimbledon. Voilà, puis on n'a pas trop d'infos, c'est pas très clair, hein, cette réparation, j'allais dire. Mais...
cette réparation.
Voilà,
cette
devenir.
Réparation de poignet. Non, non, mais entre l'opération, sa récupération, voilà, j'y arrive. On n'a pas beaucoup de news, on ne sait pas trop comment ça se passe, on ne sait pas s'il faut vraiment s'inquiéter ou pas.
Bah, t'as l'impression aussi que c'est dans sa communication de ne pas trop donner d'éléments là-dessus. Mais c'est vrai que, bah, du coup, cette absence d'infos, ne nous rassure pas en tant que fan, ça c'est sûr.
C'est surtout qu'après il a l'air quand même très calme dans sa manière d'aborder les choses et très un peu terre à terre, style bah bon voilà, c'est arrivé, j'accepte et puis je ferai ce qu'il faut pour me réparer. Mais il a pas l'air très gêné de la tournure des événements, enfin je sais pas trop comment le dire, mais
il a l'air de le prendre, oui, avec une certaine sérénité.
Ouais, c'est ça, ce qui peut être rassurant.
Après,
et en même temps,
il y a beaucoup de com aussi, j'imagine, là-dedans. Hein,
oui,
que ce soit envers lui, envers son clan, envers les adversaires. On pense à Yannick Sinner, etc. Mais de toute façon, le fait est que voilà, il va rater les deux prochains Grand Chelem, quand même. Faudra regarder. Tiens, j'ai pas regardé au niveau du classement.
Oh, ça bouge.
T'inquiète, il a toujours 7000 points d'avance sur Zverev.
Voilà, c'est ça, 7000 points.
Il a
ça
un peu
ne changera rien du tout.
Mais voilà, s'il en perd quand même 3 ou 4000, bon, c'est. C'est à signaler, tu vois.
Ouais.
Ça fait mal, ça peut faire mal,
ouais,
mais bon.
Surtout qu'il va s'éloigner de Sinner encore plus, du coup. Et que va devenir Sinner?
Que va devenir Sinner?
Que va devenir Sinner, Yannick? Que va-t-il devenir?
C'est vrai, ça. Donc voilà, c'était un petit peu la nouvelle quand même. On commence cette émission avec ça. Il fallait le signaler, voilà, cette absence prolongée qu'on redoutait un petit peu et qui est donc confirmée. Bon, voilà, c'est comme tu le dis, Marine, si c'est l'US Open, bon, on va être patient, mais on espère que ça ne va pas aller un petit peu loin que ça, parce qu'il y en a d'autres, des joueurs, on les a déjà cités, hein, qui ont été embêtés avec leur poignet. On pense à Del Potro, par exemple.
Dominic Thiem.
Ouais.
Voilà, donc voilà, il y a eu un avant et un après pour ces joueurs-là.
Simon Degive. Ah non, pardon.
Non, c'est pas le poignet, je crois.
Non, c'est la tendinite du sourcil. C'est
exactement.
Ah, la fameuse.
Voilà. Donc on espère, on croise tous nos doigts pour que voilà, pour qu'il puisse revenir dans pas trop longtemps et surtout qu'il retrouve tout de suite un très très bon niveau, quoi. Donc à suivre cette affaire. That's good stuff. All out of tech from Federer. Alors Roland Garros va démarrer, il restait un dernier Masters 1000 à disputer sur terre battue la semaine dernière, c'était le tournoi de Rome. Et on peut le dire, Yannick Sinner est entré un peu plus dans l'histoire. Il était méga favori chez lui en Italie pour tenter de remporter ce Masters 1000 de Rome, le seul qui manquait à sa collection. Et il l'a fait, Yannick Sinner a soulevé le trophée, il a donc complété sa panoplie. Alors il a remporté tous les Masters 1000 du calendrier à seulement 24 ans, oui, bon. Alors, c'est pas une première, hein. Oui, Joko le Croco avait déjà réussi cette prouesse, mais lui, il avait attendu ses 31 ans pour y parvenir. Là, on a quand même 7 ans d'avance pour le petit Italien là, qui débute. Alors, ma question, dans combien de temps Sinner aura-t-il remporté deux fois chaque Masters 1000? Ouais, non, mais c'est bien, il faut anticiper, je trouve, il faut se fixer des objectifs dans la vie, qu'est-ce que t'en penses?
Là, il va continuer, je pense. Il va faire tout ceux de l'année, puis il va recommencer l'année prochaine. Qui va l'arrêter finalement, enfin,
c'est fou ça quand même. Ouais.
Hein. Bah, Alcaraz sur deux jambes et avec deux bras.
Peut-être.
Mais sinon.
Non, mais c'est vrai qu'on avait tendance à beaucoup parler de l'incapacité pour les autres joueurs hors du top 3 il y a quelques années de remporter des tournois, remporter des Masters 1000, etc. Et là, on se dit, oh là là, il y a un duel de dingue entre Alcaraz et Sinner. Et on se rend compte que bah, malgré ce duel-là, bah, Sinner est quand même déjà à ce niveau-là.
Ouais. Il est bien au-dessus, ouais.
Je trouve qu'on les voit pas trop arriver. Enfin, moi, j'étais surpris de voir qu'il était déjà à autant de Masters 1000, en fait.
C'est vrai. Il y a un truc moins impressionnant que Carlos. Tu vois, on retient plus facilement, je trouve, aussi les titres d'Alcaraz. Il est peut-être un peu plus spectaculaire, etc. Et c'est vrai que Sinner, bah, bon an, mal an, bah, il a déjà les 9 Masters 1000, quoi.
Ouais, c'est ça.
T'as l'impression qu'il claque du doigt,
c'est
puis c'est bon,
quoi, en fait. C'est plus surprenant,
finalement. Ouais, puis ça veut quand même aussi dire, s'il fallait revenir là-dessus, mais ça veut quand même dire que bah, y a aucun autre joueur qui gagne des Masters 1000.
Ah bah ça.
À part Sinner et Alcaraz.
C'est clair.
C'est inquiétant.
Personne. J'ai pas regardé, tiens, je voulais regarder, mais je sais pas quel joueur a remporté un Masters 1000. Alors si, il y a eu l'année dernière la surprise.
Il y a eu Mensik.
Mensik,
voilà. Il y a eu Draper à Madrid.
Il y a eu Draper, mais c'est-à-dire que dans l'année, il y en a un.
Ouais, ou deux, quoi.
Ou deux
qui, ouais. Grand max.
Qui ne reviennent pas à Sinner ou à Alcaraz. Bon, c'est souvent Sinner, a priori. Mm. Mais voilà, on a quand même un tennis qui.
Se résume à deux.
Qui va souvent dans le même sens, ouais. Mm-mm. C'est soit Sinner, soit Alcaraz. Bon. Alors, Sinner, lors de ce tournoi de Rome, il y a quand même eu bataille contre Medvedev en demi-finale. Oui. Victoire en 3-7. Il y a eu bataille également contre Ruud. Je te regarde, Marine, je sais que tu.
Bataille,
apprécie
bataille,
un petit peu le Norvégien. Victoire en 2-7 hein, contre Ruud, mais quand même, on signale un très mauvais départ de Sinner dans ce match. Hein, qui a dû cravacher pour revenir dans le premier set.
Ouais.
Je sais plus combien ça faisait, 3-0 ou 4-1 pour.
J'ai pas les scores en tête, mais il était mal mené.
Un match pour catastrophique. Mener 3-0, oh là là.
Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui lui arrive? Oui, c'était ça, c'était 3-0. Ouais.
C'est 3-0,
le moment où j'ai regardé les scores.
Je
me suis dit, mais non, ça y est.
Et tout le monde l'annonçait comme extrêmement fatigué.
Mais oui.
On disait Sinner, ça y est, c'est la fatigue, machin.
Ah, c'est un humain quand même.
Oui, c'est un humain, c'est vrai que c'est un humain. Mais j'y croyais un peu pour Casper, quoi. Moi, je suis pas un grand fan de Casper, contrairement à toi, Marine. Je me suis dit, ah, c'est peut-être son jour, quoi. Et peut-être qu'il va inverser quelque chose, etc. Profiter de cet état un petit peu mezzo-mezzo de Sinner, quoi. Et en fait, bah non, il a remonté la pente méga vite.
Mezzo-mezzo.
Mezzo-mezzo, si. Et voilà, il a fini par remporter le premier set. Et puis après, il a un peu déroulé, clairement, dans le deuxième set, quoi. Dans le deuxième set, ouais. Alors, est-ce qu'on peut quand même voir à travers ça une petite faille pour Roland-Garros ? Chez Yannick Sinner, il a quand même pas mal enchaîné. Du coup, bah, vu qu'il gagne tous les tournois, bah, il joue beaucoup. Mais est-ce qu'on peut y voir quand même une petite éclaircie pour ses futurs adversaires ou pas ? Qu'est-ce que t'en penses, Enzo ?
Bah, peut-être, on en parlait déjà il y a 15 jours. C'est peut-être sur l'enchaînement des matchs, finalement, qu'on peut se poser une question. Parce que c'est vrai qu'on se demandait même s'il allait s'aligner à Rome, en fin de compte. Il a beaucoup, 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 beaucoup joué, là, en ce printemps. Les conditions climatiques de ce début de Roland-Garros seront très chaudes.
Alors, qu'est-ce que t'en dis, Alain-Gilles Pétré ?
Un anticyclone se dégage. Non, pardon. Non, mais c'est vrai qu'il va faire très, très chaud sur le début de Roland. Ouais. Est-ce que ça peut-être fatiguer un peu plus les organismes à voir ? Mais sinon, à part cette potentielle faille-là, il n'y a pas grand-chose d'autre à redire, quoi. Donc c'est vrai qu'il n'y a que là-dessus peut-être où il peut flancher.
Ouais, parce que même quand ça ne va pas trop fort, on pense à son match contre Medvedev, on pense à son début de match contre Ruud, bah, il arrive toujours, même en jouant pas très très bien, bah, il les gagne, quoi, ces matchs-là. Il y a toujours cette petite marge quand même qui fait qu'il peut passer à travers pendant plusieurs jeux. Mais c'est pas grave, quoi. Il remet un petit coup d'accélérateur, de booster.
Tranquille, voilà.
Tranquille et mille, quoi. Et
exactement.
Bien, quoi. Non, mais c'est assez impressionnant quand même. Alors à Rome, on n'a pas vu en finale la tête de série numéro 2. Ah bah oui, alors Alcaraz n'était pas là, on le rappelle. Hein. Tête de série numéro 2, qui était un certain Alexander Zverev. Bah, lui, il ne s'est pas attardé à Rome. Hein. Défaite en 8e contre l'Italien Darderi. Avec une petite bulle au 3e set. Hein, pour
la petite bulle.
Ami, Sacha, ouais. 6-0 contre lui. Voilà, du grand Zverev. Est-ce qu'on a été déçu de Zverev ou très déçu de Zverev ?
Extrêmement déçu.
Ah, alors, est-ce qu'on est vraiment déçu ?
J'ai regardé le match.
Celui-ci contre Darderi, là ?
Ouais, contre Darderi, je crois que j'ai regardé tout le match, où je me suis arrêtée 3e set parce que ça me saoulait.
Il était vite, hein, 3e set.
Premier set et début du 2e, Zverev, une main de maître. Il écrase Darderi. Darderi un peu nerveux, il joue devant son public, je crois qu'il n'était jamais allé aussi loin en Masters 1000. Mm. Voilà, nerveux, ça sent, il fait plein de fautes. Et Zverev, globalement, il en profite, il écrase, il joue tranquille, voilà. Franchement, sans vraiment y mettre beaucoup du sien, il criait pas. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué.
C'est vrai ?
Ouais, il criait pas. Donc je me dis, ah, il se donne pas à fond. Il n'y a pas besoin de se donner à fond. Donc ça montrait vraiment le maître du jeu, là, c'était vraiment Zverev.
Ok.
Et puis va savoir, milieu deuxième set, proche de la victoire, bah, il nous fait du grand Zverev. Il commence à s'écraser. Et puis Darderi, du coup, bah, il se remotive. Et puis la tendance s'inverse. Ça, il gagne au tie-break, je crois, Darderi.
Ouais, ouais, deuxième set accroché.
Et après, bah, voilà, ça déroule.
Bah c'est plus que ça déroule en fait, 6-0, c'est ça qui m'a un peu étonné en fait, une défaite.
Mais en fait il a complètement lâché le match, il a vraiment envoyé valdinguer le match et après il va se justifier en conférence de presse, les terrains à Rome ils sont déplorables, c'était horrible, j'en avais marre de jouer, mais enfin, c'est un joueur professionnel quoi, je sais pas, c'est...
Peut-être qu'il en a marre de jouer contre les Italiens aussi. Hein.
Peut-être, oui.
Et de perdre, ennuyé contre les Italiens.
C'est si gênant là quand même.
Bah ces justifications, ouais, ça commence à être lourd quoi.
C'est ça.
Il y a quelque chose à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau, ouais. Finalement, dans son engrenage là, de la défaite. il y a toujours un truc en plus qui vient justifier que, bon, bah, à un moment donné, non, enfin, ça fait 37 ans que tu prends 1 et 2 contre Zverev, contre Sinner, pardon.
C'est jamais lui. Hein.
C'est jamais lui, non, c'est ça, c'est assez...
Les conditions climatiques, le terrain, la raquette, tout ça.
Bon, à Madrid, il a quand même avoué avoir fait un match de merde.
Oui.
Belle analyse.
Oui. Ouais, ça fait quand même finale à Madrid.
Oui, c'est ça, non, mais on est d'accord.
Ouais, il est arrivé sur le terrain en reculant aussi, forcément, tu fais pas un bon match.
Alors, quand je m'échauffe, moi, je cours en reculant, ça m'arrive.
C'est vrai ? Ah,
ouais,
ouais.
Ça m'arrive.
Bon, bah, comme quoi.
Voilà, pour être bien chaud, quoi. Les ischios, là, paf. On y va, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est. Bon, là, j'étais un petit peu déçu. Ça reste quand même. En l'absence d'Alcaraz, c'est censé être le grand rival de Yannick Sinner.
Waouh.
Donc on verra à Roland, s'il va vraiment se concentrer tout un match. Et pourquoi pas, on sait qu'il peut réussir, hein, Roland, il peut aller loin, mais bon, on va voir. Alors celui qui remonte la pente quand même et qui a fait un excellent tournoi à Rome, eh ben, c'est Casper Ruud justement, hein. Le chouchou de Marine. Boîte à gorgée là. Le chouchou de Marine. Des victoires contre Leishka. Contre Muzetti, contre Kachanov, et puis un bon niveau, quand même, on peut le dire, en finale affiché contre Yannick Sinner. Match perdu, 6-4, 6-4, mais bon, contre Sinner, c'est honorable, hein, 6-4, 6-4. Hein.
Bon,
c'est
pas Zverev meilleur score que l'année dernière, du coup.
Par exemple.
C'était pris 0 et 1 quand même,
voilà,
contre Sinner.
Donc,
à son retour.
Il a quand même 8 fois plus de jeux. Hein. ce qui est quand même pas mal.
Ça me console.
Tu l'as vu ce match, Enzo, ou pas ?
Regardez un petit peu, j'ai pas tout vu, mais effectivement,
les
solide.
Highlights.
Et voilà, les highlights, tout à fait, le résumé en bon français. Non, j'ai regardé un petit peu, deuxième set surtout. Et c'est vrai que ouais, Casper Ruud est revenu à un bon niveau. Autant il y a quelques temps, on se disait, oula, ça, c'est sur la pente très décente. Et finalement, là, il a bien, bien retourné la chose. Et il récupère de la confiance. Peut-être que pour Roland, ça peut le faire de lui un outsider, voire peut-être plus.
Mais c'est peut-être justement parce qu'il est un peu redescendu au classement, qu'il joue un peu plus libéré.
Tout à fait.
Il est redescendu au-delà du top 20, je crois.
Ouais.
Voilà, donc, mais ouais, il reste quand même tête de série pour Roland, ça c'est sûr. Et on le regardera tout à l'heure, le tableau, mais ça peut être un petit épouvantail quand même. Hein,
carrément, ouais.
Il a quoi à défendre en plus à Roland ? Il doit pas.
Bah, c'est toi qui es censé le savoir, Marine.
Ah,
oui, c'est vrai que c'est
si
toi le fan club officiel.
C'est un deuxième tour. Il a perdu.
Faut le défendre.
Il s'était blessé au dos contre je sais plus qui et il a perdu 5ème set alors qu'il menait. Contre je ne sais
pas. Ne remuons pas ces mauvais souvenirs.
Non, non. Mais voilà. Il n'a pas beaucoup à défendre. C'est deuxième ou troisième tour, je sais.
Ça m'a pas marqué, perso. Mais non, bon,
il va peut-être pouvoir remonter au classement s'il fait un bon tournoi à Roland. Pourquoi pas, effectivement. Mais c'est vrai que ça peut être de bon augure. Moi, j'ai vu son premier. Bah, j'ai vu le match, mais le premier set, il a quand même vachement bien joué au départ. C'est vrai que Sinner a eu du mal à rentrer dedans, mais il a très bien joué, Casper Ruud. En tout cas, il est venu avec une bonne attitude sur le terrain. Il n'est pas venu en disant voilà, je vais me faire bouffer. C'est Yannick Sinner en face, c'est mort. J'étais étonné de sa mentalité. Et puis, dans le deuxième set, il se fait breaker très tôt et il reste quand même au contact tout le long du set. Je crois même qu'il a des balles de débreak, si je dis pas de bêtises. Hein.
Il me semble aussi, ouais.
Et on se dit, bah tiens, peut-être que ça pourrait pas retourner encore un petit peu ce match, mais ouais, j'étais vraiment étonné dans le très bon sens de l'attitude et du niveau du Norvégien. Voilà. Tenez à le dire.
Voilà, voilà.
Parfois, il faut dire les choses quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez.
Mais carrément, ouais, non, c'est vrai que. On l'attendait pas forcément à un niveau encore comme ça sur Terre. Et il nous rappelle qu'il peut être vraiment un gros, gros client sur cette surface-là, quoi. Donc, ça fait plaisir.
Et on va fermer ce chapitre sur cette très belle phrase.
Ah oui.
Alors cette semaine, c'est la dernière semaine avant Roland-Garros, donc il reste quelques tournois préparatifs, hein, je pense notamment à Hambourg et à Genève. Alors, le tournoi avance assez vite, hein, parce que les finales ont lieu demain, vu que Roland-Garros commence dimanche. Donc à Genève, Casper, on en parlait, hein, la petite transition, qui était quand même en demi-finale, donc il a confirmé sa bonne forme. Voilà, demi-finale, enfin il a confirmé, il a quand même perdu aujourd'hui. Hein. Mais il a perdu contre un bon joueur sur Terre, qui est l'Argentin Navone. Et puis mine de rien, il a enchaîné Casper, hein.
Oui.
Oh bah oui,
il fait
oui,
finale
oui.
À Rome, il enchaîne à Genève, bon c'est pas très loin, Rome-Genève il y a à peu près 356 km,
ah,
j'en sais rien du tout,
c'est
pas très loin, voilà.
C'est en fonction des bouchons,
c'est, voilà,
ouais, c'est ça,
ça dépend du tunnel du Mont-Blanc, et puis l'autre demi-finale c'était Tienne Bublik. C'est toujours en cours, c'était en cours.
Il y avait un 7-0 pour Tienne, je crois.
Il y avait même un 7 partout
il
après.
Il y avait un 7 partout,
okay.
C'est ça.
Voilà. Donc, en tout cas, Navone est en finale contre peut-être Bublik s'il tient son rang, lui qui est tête de série numéro 2.
Lerner c'est Tienne. Qui a gagné.
Ah, c'est Tienne qui a gagné. Bon,
7-6 au dernier.
Et ben voilà,
oui.
Finale. Casper Ruud, non. Navone, oui. Bublik, non. Tienne, oui. Voilà. Donc c'est une finale un petit peu...
rocambolesque.
Un petit peu surprenante, hein, voilà. Tienne Navone, mais pourquoi pas. Et à Hambourg, là, on n'est pas sur un ATP 250, on est sur un ATP 500, il y a du point en jeu. Les demi-finales se jouaient aussi aujourd'hui. Donc nous avons le fameux péruvien, je dis fameux parce que...
Ah oui, on le voit partout. Oui,
la buse péruvienne.
Ah oui, non, c'est un peu le tube du printemps, là.
Bah, franchement,
ouais. Bousé, ce brave péruvien qui jouait contre Kovacevic. Hein. Oui. Alors avec son nom, lui, il est américain. Et c'est Bousé qui l'a emporté. Donc Bousé sera en finale demain. Contre soit Dominor, soit Tommy Paul.
Et il y a 5-2 pour Dominor.
Dans
le premier set.
Ok. Bon voilà. Dominor qui revient quand même un petit peu, hein, parce que
oui.
Il était pas bien ces derniers temps là. Hein.
Effectivement, pareil, il reprend un petit peu de confiance.
Ouais. Alors que la terre battue, c'est peut-être pas son surface.
C'est pas trop sa prédilection.
Ouais. Mais voilà, il relève la tête, il engrange un petit peu de confiance, quelques victoires avant Langaros. Pourquoi pas? En tout cas, voilà, on aura une finale Bousé. Alors, est-ce que Bousé va aller jusqu'au bout de la surprise en l'emportant demain contre un top joueur, soit Dominor, soit Tommy Paul? Mais ça va être la surprise. Donc voilà ce qui s'est passé un petit peu. Un petit mot quand même sur Hugo Humbert. Voilà, Hugo Humbert qui lui était aligné à Hambourg, il me semble, hein, et non pas à Genève. Bon, tu es d'accord avec moi, Enzo? Je regarde Enzo, parce que Enzo, c'est notre bible ici, hein, c'est un peu notre huissier.
Mais effectivement, il a été aligné à Hambourg. Il a une belle victoire contre un top 15, contre Kachanov, je crois.
Exactement. Oui. Ouais. Donc, il a quand même enchaîné quelques bons matchs, et il a perdu en quart de finale. Il a perdu en quart de finale, c'était contre, peut-être Kovacevic?
Bonne question.
Peut-être Bousé, je crois que c'est Bousé. Voilà.
Un des deux,
voilà. Donc bon, il a quand même trouvé... Bousé, voilà. Bousé. Il a quand même retrouvé un petit niveau sympa. Roland-Garros commence dans 2 jours. Il était temps, on va dire, hein, quand même, pour Hugo Humbert.
Vous faisait peur, Hugo, là.
Oui. Il a un premier tour abordable, Roland. On va en parler.
Ouf.
Ne spoilons rien.
Ça dépend.
On va voir.
Ne spoilons rien. On va te parler, évidemment, de ce tableau de Roland-Garros dans quelques minutes. Voilà, donc Hugo Humbert, bon, quand même, un quart de finale en ATP 500. Ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Et puis, dans un instant, on va peut-être regarder ce qui se passe sur le tableau féminin chez les femmes.
Oui.
Bah oui, il faut quand même.
Hot.
Allez, on met de côté nos amis, les messieurs, place aux dames. Et bien, il y avait également le grand tournoi de Rome chez les femmes, il y a quelques jours. Et alors là, il y a quand même eu une performance de premier choix.
Ouais.
Elina Svitolina. Alors, il fallait quand même la voir venir. On sentait qu'elle jouait quand même bien, hein, depuis quelques temps, quelques mois. Mais alors là, quand même, à la sortie, Rybakina en quart, Świątek en demi. Oui, bah, tu vas t'en remettre.
J'ai la larme à l'œil déjà.
Et Coco Gauff en finale. Rybakina, Świątek, Coco Gauff. Parce qu'on le sait, sortir un excellent match contre une top joueuse, ça, elle peut le faire. Mm. Mais il faut les enchaîner quand même avec régularité. Il faut que le physique tienne, etc. etc. Est-ce qu'elle est en train de retrouver son meilleur niveau? Est-ce qu'elle joue le meilleur tennis de sa vie, là, Elina Svitolina?
Oh. Oui, je pense que oui. C'est son premier Masters 1000 en plus.
À Rome?
Non, tout court.
Non, elle a déjà gagné.
C'est son troisième titre, rien qu'à Rome.
Ouais,
d'accord.
C'est pas une inconnue.
Je
sous
estime, madame mon fils.
Ouais.
Ah bah oui, globalement, je pense que là on est sur une performance de haut niveau. Et à mon avis, elle revient à son meilleur tennis. Là, elle joue pour Gaël, quoi. Elle joue à sa place.
Là, elle joue pour deux, hein, vu le nombre de victoires de Gaël en ce moment. Bon, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un peu ma question. Est-ce que tu penses, toi, Enzo, qu'elle joue peut-être mieux que jamais?
Mieux que jamais, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui m'a frappé, moi, perso, sur ce tournoi de Rome, c'est que, comme tu l'as dit, donc Rybakina, Świątek, Gauff, elle n'a pas été impressionnée et elle a réussi à se sortir dans différents matchs face à différents profils. C'est ça que je trouve intéressant en plus de ça. Sur terre, Rybakina qui est une grosse frappeuse, etc. Świątek Gauff, plus des spécialistes quand même de la surface, surtout Świątek. Et elle s'en sort quand même. Donc je trouve ça vraiment bluffant. Et surtout, ça tombe au meilleur des moments, quoi.
Ouais.
Je trouve que, en vrai, je pense que c'est son meilleur tennis, malgré que ce soit pas son meilleur classement. Je pense que là, j'ai rarement souvenir de l'avoir vue autant sereine, en fait, sur un court. Je la trouve vraiment épanouie, sereine. Et est-ce que ça a un lien peut-être avec Gaël? Allons savoir, peut-être. Mais c'est impressionnant.
Il a du temps, effectivement, pour l'encourager, pour la coacher, pour lui donner tous ses conseils. Voilà, notre ami Gaël, quand même. Non, moi, j'étais très content, en tout cas, de voir que Svitolina remontait la pente à ce point-là, parce que je pense que le tennis féminin a besoin d'avoir des joueuses comme ça qui peuvent gagner des gros tournois, qui peuvent gagner des grands chelems. Sabalenka en est capable, Świątek en est capable, Coco Gauff, Rybakina aussi. Là, tu rajoutes Svitolina, ça commence à faire un vivier hyper intéressant chez les femmes là, en ce moment-là. Donc, cool.
Bah ouais, carrément. Cool. Et puis, j'ai rejoint ce que disait Enzo, elle paraît beaucoup plus sûre d'elle quand elle entre sur le terrain. Et vraiment, c'est ce que tu disais, elle rentre sur le terrain face à une top 3 et en fait, elle se sent d'égal à égal. Quoi. Elle n'est pas impressionnée par la personne qu'elle est en face, comme on pourrait voir par exemple dans le tennis masculin. Donc c'est vachement rassurant de voir ça et c'est super plaisant en fait.
Oui, puis elle a vieilli aussi. Hein. Il y a la maturité.
Dans le bon sens. Okay.
Oui, bah oui, évidemment.
Bon, pas si vieille que ça, quand même, Zitalina. Non, mais bon, peut-être que les années lui font du bien aussi. Hein.
Ouais.
Mais clairement. Bah, là, il y a beaucoup d'expérience qui rentre en jeu, je pense.
Elle se bonifie. Puis bon, il y a quand même sa petite pause maternité. Peut-être que c'est un rythme aussi à reprendre au fil des mois. Mais là, je l'ai trouvé quand même très, très, très impressionnante. Une autre surprise à Rome qu'on ne pensait pas voir venir, ça, c'est donc Cirstea. Et ça, je sais que ça t'a fait plaisir, Enzo. Hein.
Cirstea, Sorana.
Qui fait un parcours assez formidable, qui sort Sabalenka au troisième tour, puis la tête de série numéro 13, Noskova, ensuite Ostapenko, donc elle rallie les demi-finales et elle est enfin stoppée par Coco Gauff. Quand même, mais ça c'était à signaler, cette performance majestueuse de Cirstea, 36 ans. Hein. 36 ans,
ah oui.
Qui a annoncé que c'était sa dernière saison sur le circuit.
Oh, mais non,
c'est clair.
Sa retraite. Encore une retraite. Mmh.
Voilà, et donc là, pour le coup, est-ce qu'elle joue mieux que jamais? Oui, parce que là, elle atteint son meilleur classement à Cirstea.
Elle, pour le coup, c'est son meilleur classement. C'est une saison unique pour elle. Mmh. Elle n'a jamais vu ça. Elle n'a jamais réalisé de performance comme ça avant. Et là, ça arrive. C'est exceptionnel, vraiment. Bravo. Bravo à elle. Elle nous fait une Daniel Collins, un peu.
Ouais, un petit peu, ouais, c'est vrai.
Elle prend sa retraite, elle, ou...
Collins, hein, c'est longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Collins.
Bon, elle a sûrement dit qu'elle prend sa retraite, elle va revenir.
Je sais pas, mais non. Puis, je suis déçu parce que cette petite feu de là, entre Moutet et Collins, n'a pas été plus loin. Hein.
Ah oui, c'est vrai.
Cette petite...
le scud.
Ouais, le scud, voilà. Ouais. Cette petite histoire, là, je t'aime moi non plus, là, ça me faisait bien plaisir. Et bon... On n'a plus rien à se mettre sous la dent, là, en ce moment. Donc voilà, Cirstea, pas mal. Et puis, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu, quand même, de notre amie française, Loïse Boisson?
Ah oui, parlons-en de Loïse. Allez, parlons-en,
parce que bon, on était sur le tournoi de Rome, là, on y reste. Une défaite, encore une fois, dès le premier tour pour Loïse Boisson. Reprise, quand même, extrêmement difficile pour Loïse. Et là, quand même, il y avait un tournoi cette semaine à Strasbourg. Voilà, et figurez-vous qu'elle a gagné.
Ouais,
première victoire depuis son retour pour Loïse Boisson contre la chinoise Wang. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut en penser, Enzo? Est-ce qu'il faut y croire quand même à Roland Garros, ou ça pue quand même clairement, ou pas tant que ça? Qu'est-ce que t'en penses?
Je suis assez mitigé quand même sur l'ensemble. Maintenant, je pense que c'est illusoire de penser qu'elle peut refaire une demi-finale. Qu'on soit honnête, on est d'accord.
Alors, l'année dernière, on ne l'attendait pas.
C'est vrai qu'on ne l'attendait pas. Pas
là,
du tout. Ceci étant, l'année dernière, elle arrivait quand même sur une dynamique bien autre que celle de cette année. Elle arrivait déjà avec des victoires à ne plus savoir quoi en faire sur le circuit secondaire. Là, cette année, c'est pas du tout la même chose. Qu'elle passe déjà un ou deux tours, en vrai, moi, je pense que ce sera franchement une belle performance au vu de sa dynamique récente.
Premier tour, déjà.
Voilà, c'est ça. C'est juste.
On
en parlera plus tard.
Voilà, chose dans son temps, Marine. Ne sois pas impatiente.
Mais c'est compliqué. Mais bon, après, on s'y attendait aussi. Hein, une si longue pause pour un jeu qui est quand même extrêmement demandant physiquement. On sait quand même qu'elle base énormément de ses qualités là-dessus. Je suis pas surpris, perso. Mais bon, c'est dommage, c'est sûr.
Bon, après, moi, j'ai vu quand même quelques images de sa victoire là contre Wang. Et bon, c'était mieux quand même que ses précédents matchs. Hein.
C'est mieux.
On a retrouvé quand même une certaine gifle en coup droit. C'était un petit peu plus consistant côté revers quand même. On retrouvait par moment, par séquence, la Loïse Boisson qu'on connaît.
C'est ça, par séquence.
Par séquence.
Maintenant,
puis son deuxième tour, c'était pas non plus un cadeau. Enfin, elle a quand même pris la tête de série numéro 1 du tournoi, aime beaucoup. C'était un peu une défaite évidente. Mais
oui, c'était compliqué.
Mais là, tout à l'heure, j'ai vu un article. Bon, j'ai pas cliqué dessus, j'ai juste vu le titre. Mais j'ai vu un article comme quoi elle aurait déclaré que ça y est, elle se sentait à 100% prête physiquement.
Ah.
Et que ça engageait du bon pour Roland. Donc
et ça c'est un
que...
titre qui t'a pas inspiré du tout. Oula, je clique pas là-dessus. Parce que 100% Loïse Boisson, là, ça a un truc.
Ah non, ça contredit ce que j'ai envie de dire. Non. Non, mais voilà, si elle se sent prête mentalement et physiquement. Voilà, ça peut présager du bon après pour Roland et puis on peut peut-être compter sur le public français pour l'aider un petit peu dans ses victoires en fait.
Ah bah ça serait pas mal.
L'ambiance de Roland va pas être la même qu'à Strasbourg ou qu'à je sais plus ses autres tournois, mais je pense qu'on peut quand même compter sur l'ambiance de Roland pour essayer de la soutenir un peu et qu'elle fasse mieux en fait.
Bah oui.
Carrément.
Et puis, elle a rechangé de coach.
Elle a retrouvé son ancien coach.
Oui, c'est vrai. C'est plus, décidément.
Bah, c'est vrai que des fois, ça peut tenir à ça. Hein. Ouais. Allons savoir. On ne sait jamais. Il peut retrouver peut-être un discours plus adapté à sa situation actuelle. À voir. C'est évidemment pas une science exacte, mais ça peut peut-être aider. À voir.
Le dénommé Florian Rennais, voilà, qui redevient coach de Loïs Boisson à quelques jours de Roland-Garros. On croise les doigts quand même.
Pas de pression,
mais on croise les doigts pour Loïs. Alors, avant d'analyser le tableau de Roland, encore quelques secondes, Marine, t'as le temps de boire un petit coup si tu veux. Okay. On va faire un petit point sur les qualifs. Bah oui, les qualifs, est-ce qu'on a eu des surprises? Est-ce qu'on a eu des Français, des Françaises qui se sont extirpés de ce tableau des qualifications? On le rappelle, les qualifs, ça a commencé lundi. D'ailleurs, tous les deux, je regarde d'un sale œil parce que j'ai l'air que vous êtes. Vous y étiez, you were there, comme on dit à
of course.
Arizona. Donc voilà, hein, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces qualifs? Et bonne nouvelle, déjà, on a des Français qui sont sortis. Ça, c'est plutôt cool. Je pense, par exemple, à un joueur qu'on ne connaît pas très bien, 382e mondial, il a 20 ans, Thomas Forel, voilà, qui a remporté son troisième tour des qualifs hier. Voilà.
Hier,
il
n'a
pas perdu un set en plus. Hein.
Non. Ouais.
Donc, quand même, un mec, on a l'impression qu'il sort de nulle part. On ne pourrait même pas dire que c'était un bon espoir ou quoi. Non, Thomas Forel. Enzo, tu...
Bah j'avoue, je connaissais de nom, mais je ne m'attendais pas à le voir sortir comme ça, aussi facilement en plus. Il a dégagé vraiment une impression de sérénité, comme s'il avait déjà vraiment géré des qualifs comme ça. Et incroyable pour lui, en plus, il s'est fait kiffer sur le court 14. Enfin,
ouais,
franchement,
bah oui, attends.
Génial. Franchement, l'histoire est géniale, que du bonus pour lui. Vraiment, bravo Thomas, bravo.
Magnifique, et donc il va pouvoir découvrir le grand monde.
C'est ça.
De Roland-Garros, Pierre-Hugues Herbert. Pierre-Hugues,
P2H.
Notre trentenaire
préféré. Il a eu un petit peu de chance, lui.
De la chance, tu dis, toi?
Ouais, il a fait que deux matchs.
Ouais,
il a bénéficié
quand même les gagner.
D'un forfait. Oui, oui, non mais... Il a fait un bon match. Pour avoir regardé la dernière, son dernier match, là, il y a quelques heures maintenant.
Qui est le plus dur à remporter, hein, le troisième
Toujours, bah oui, c'est celui où il y a le plus de pression. Il a été beaucoup aidé du public.
On dit souvent que c'est le troisième le plus dur, mais vu qu'il n'y en a fait que deux, il n'a pas eu le temps de se dire ça.
Et oui, c'est ça. Ce sera son premier tour le plus dur.
Oui, ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, il avait un avantage physique, forcément, mais il avait l'avantage du court. Le long-lane, forcément, ça porte. Et non, très très solide, très étonnant. Franchement, moi je l'attendais pas du tout. P2H, je me suis dit, ouais, ça va être. Allez, il a une invitation en plus, lui.
Oui,
ouais,
oui,
voilà.
C'est ça.
Je me suis dit, ouais, bon, premier tour, allez, c'est bon. C'est vraiment pour faire figuration, quoi, pour dire, allez, on l'invite et tout. Et bah, surprenant. Franchement, bonne surprise. À voir ce que ça peut donner.
Bah ouais, alors P2H, qui est vraiment le français qu'on connaît le plus, hein, qui a réussi à sortir de ses qualifs. Deux autres français, enfin je dis deux, il y en avait un qui était sur balle de match tout à l'heure. Je pense à Kélian Jacquet.
Ouais.
Qui, je pense, a dû gagner ce
c'est
match.
Gagné,
il
ouais.
a gagné, mmh. oh, il a gagné.
Voilà, je regardais parce que vous guettiez les scores. Donc Jacquet qui fait un troisième français à sortir des qualifs. Et puis Lucas Pavlovic. Mmh. Voilà, ça fait quatre français, je crois qu'on en oublie pas.
Non, 4, ouais.
Et il me semble qu'il n'y en a plus qui sont programmés là.
Non, c'est fini, là. C'est Jacquet, c'était le dernier match.
Plus de Français. Donc voilà, ça fait quand même 4 Français qui sortent. Tu as surveillé, tu as guetté aussi ce qui se passait du côté des femmes, Marine.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus?
Chez les femmes françaises ou chez
oui,
les femmes...
chez les femmes françaises notamment.
Alors, femmes françaises en qualifiées sortantes, il n'y en a pas.
Voilà.
Voilà.
Voilà, bon. Ça s'est fait.
Non, mais pour les hommes, j'ai une stat, parce que du coup, j'écoutais les commentateurs du match de P2H, et donc 4 qualifiés français, c'est la première fois que ça arrive depuis 15 ans. C'était pas arrivé depuis 15 ans.
Donc c'est bien, en fait.
Donc okay. C'est une très bonne chose, okay. Et malheureusement, chez les femmes, c'est la routine.
Ok, bon.
Il y en a une ou deux qui s'extirpent des années précédentes, mais c'est pas glorieux. Après, pour leur défense, il y a eu beaucoup d'invitations chez les femmes cette année, et des femmes qui du coup sortaient des qualifs usuellement, donc ouais, là voilà,
qui auraient pu peut-être
qui auraient pu
tirer
passer les qualifs,
voilà.
Mais c'est vrai compliqué. Que c'est dommage chez les femmes, c'est dommage. Après bon, c'est comme ça, on a eu une petite c'était Harmonitane,
ouais, Harmonitane qui a fait troisième
tour, troisième tour, hein,
troisième tour, et elle a perdu en 2-7. C'est dommage.
Un petit moment nostalgie aussi avec la belle performance ou pas de Kiki,
qui j'allais dire, ouais.
Ljanovic. Qui part dès le premier tour.
Oh là là là.
Un gros sniff. Voilà, donc pas de surprise incroyable chez les femmes. Chez les hommes, on revient quand même sur des grands noms qui passaient par les qualifs.
Oui, c'est ce que
On va commencer peut-être par Dimitrov.
Ouais. Oh, y a
gros sniff là.
Gros sniff, ouais, comme tu dis. Gros sniff pour Dimitrov. Ouais, donc il devait passer par les qualifs, hein, c'est son classement, malheureusement. Mm. Il est tellement redescendu bas. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à revenir, Dimitrov, là?
Ça pue, moi, je suis vraiment pessimiste, moi, depuis déjà quelques mois sur Dimitrov. Ouais. Je te l'ai dit, Marine, en plus, lundi, quand on a vu qu'il jouait Faria le premier tour, on s'est dit, allez hop, 3-3, et puis au revoir. Mais il fait quand même 3-7. Et en plus, il sert pour le match dans le deuxième, il resserre pour le match dans le troisième.
Horrible.
Et malgré tout, il passe pas. C'est dur pour Grigor, parce qu'on le sent vraiment là sur la pente très très descendante pour le coup.
C'est quand même étonnant, quoi, cette histoire, moi, je trouve, parce qu'il y a à peine un an, il était quand même à un excellent niveau. Hein. Mm-hmm. Il se blesse à Wimbledon, c'était il n'y a même pas un an.
C'était l'année dernière, ça?
Oui,
pour moi, c'était l'an dernier.
Oui, c'était l'année dernière, oui.
Où il est en train de sortir Sinner quasiment.
Ah oui, voilà,
il mène 2-7 à 0.
0.
Je sais plus, 2-7 à 0. Et là, blessure, un pec qui lâche, quoi. Bon, ouais. Là, le pec qui lâche.
Ça fait ce bruit-là. Pec.
Ah oui, c'est un petit peu ça. donc voilà. Et je me dis comment en un an, il a pu perdre autant son tennis, en fait.
Ouais, sachant qu'il était revenu à son meilleur niveau, là. Parce qu'il est plus tout jeune, Grigor, mais il n'est pas non plus.
Ah oui, avant qu'il se blesse,
vieux,
tu veux
quoi.
Dire.
Oui, avant qu'il se blesse, il était revenu, on l'a revoyé dans le top 10, on s'est dit, waouh, ça y est, c'est le retour, quoi.
Il jouait très très bien, mais voilà, il ne s'est pas cassé une jambe, il ne s'est pas fait une entorse de la cheville qu'il l'a sorti 6 mois. Donc normalement, le physique, il doit toujours être là. Et là, on ne parle pas effectivement d'une blessure au poignet comme peut l'avoir en ce moment Alcaraz. Bon, on parle voilà, d'une déchirure au pectoral. Bon, normalement, tu t'en remets. Donc je ne sais pas ce qui fait que ça coince, mais c'est quand même très étonnant, je trouve.
Oui, c'est assez inexplicable, une telle chute comme ça. Ça fait à peine à voir, vraiment.
Peut-être
ouais.
qu'on ne sait pas tout.
Peut-être.
Peut-être qu'il y a des raisons.
Voilà, c'est mentalement
externes.
Que ça coince, je pense. Hein. Parce que si physiquement on se remet mentalement.
Ouais,
je sais pas. Ouais.
Peut-être, je sais pas. Enfin bon, voilà. On verra bien par la suite ce qu'il va nous proposer, Dimitrov. Et on peut parler aussi de David Goffin.
Oui.
Ben oui, David.
Oui.
Grand sourire de Marine.
Ah, c'était trop bien.
Tu parles de sa défaite ?
Non, de sa belle victoire lundi. C'était génial.
Belle victoire, effectivement, pour son premier tour de qualif. Lui qui dispute sa dernière saison aussi, David Goffin, l'ancien champion belge. Et donc, il perd au deuxième tour contre un Anglais, Samuel, comme on dit en anglais. Voilà, donc qui perd. Et c'était un beau moment, effectivement, sur le Suzanne Lenglen.
Ouais.
Voilà, qui a un petit discours sympa à la fin. Enfin, déjà un discours sur son premier match.
Son premier match, ouais.
Rediscours après.
Il était
David
tout
Goffin.
Ému. Choupette, ouais. Il avait les larmes aux yeux.
Très ému. Un bon gars. Un
ouais,
bon gars,
franchement. Bon, ça, quand t'as tout un public qui te supporte comme ça, tu sais que c'est une bonne personne. Quoi.
Bah ouais. Bon, c'est quand même l'occasion de dire aussi que c'est quand même cool d'avoir ces qualifs à Roland-Garros.
Carrément.
Sur les grands cours, sur le Suzanne Lenglen. Vous y étiez tous les deux.
Ouais.
Voilà, qu'est-ce que ça fait de. Est-ce qu'il y a vraiment une différence en fait entre voir un match pendant les 15 jours de Roland-Garros sur le Lenglen et voir un match pendant les qualifs? À la seule différence qu'on est sûr de voir des Français, quoi.
On est plus près aussi.
Ouais, qu'est-ce que ça change en fait? Pour moi, j'ai l'impression que maintenant c'est un tournoi qui dure presque 3 semaines en fin de compte. Hein.
Ouais, finalement, ça donne un peu cette impression, ouais.
Bah, sachant qu'en plus, là, cette année, il y avait énormément de monde. Contrairement aux années précédentes où les qualifs, ça intéressait pas grand monde. Là, j'ai trouvé que vraiment. Bah, limite, on se dit premier jour du tournoi principal, on y croit. Et non, l'ambiance, elle est folle. Le soutien pour les Français, il est indélébile. Et non, franchement, c'est trop, trop bien. Tournoi de 3 semaines, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, le niveau de jeu des qualifs est vraiment aberrant, quoi. Enfin,
ouais,
on voit des trucs.
C'est vraiment fou, pour le coup, c'est le seul tournoi du Grand Chelem, enfin le seul tournoi tout court qui propose des qualifs sur un aussi grand cours, quoi. C'est complètement dingue pour les joueurs, pour les joueuses, pour le public, évidemment. C'est vraiment fabuleux, quoi. Donc voilà, moi je trouve que c'est une belle chose, il faut le dire, quand parfois il y a des.
Tout à fait.
Et le cours est plein en plus.
Des belles initiatives.
Oui, et puis c'est bien rempli, voilà.
Ouais,
des fois c'est ce qu'on peut un peu craindre ou regretter.
Là,
mais
c'est blindé, blindé de chez blindé.
Bon. Marine, est-ce que t'es prête? Est-ce qu'on regarde le tableau ou pas?
Oui!
Allez, on regarde le tableau.
C'est pas les pronos? Ah bah pardon! Voilà,
ah,
il est là le bug.
C'était trop clean.
Ah bah voilà, mais c'est bien! Je trouve que un petit direct sans aucun bug.
Bah voilà, sinon c'est pas drôle.
Une édition spéciale.
Ça m'a mis la pression.
Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un prono?
Une petite virgule?
Une petite virgule?
Ouais, une petite virgule. Allez, let's go.
Ça va être drôle.
Allez, on se penche sur le tableau qu'on connaît depuis hier, hein, le tirage a eu lieu hier. Alors, qui pour inquiéter Yannick Sinner c'est quand même la grande question qu'on va se poser
oui.
hein, chez les messieurs. On va jeter évidemment aussi un petit coup d'œil sur ce qui se passe chez les dames. Déjà, si on regarde un petit peu les grandes têtes de série, comment est-ce qu'elles sont réparties qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme match potentiel en fin de tournoi, par exemple ?
Marine, je n'ai pas regardé jusque-là.
Ah d'accord, t'as pas été jusque-là.
J'ai regardé les premiers tours.
Non, bah écoute, je regarde pas, on se parle. Ce qui est sûr, c'est que Yannick Sinner et Daniil Medvedev sont dans la même partie de tableau. Voilà, donc ça peut être une demi-finale éventuelle. Et de l'autre côté, il nous reste eh bien, Alexander Zverev, le bien-aimé, ça c'est sûr. Et puis, je cherche l'autre.
Ah, c'est des mineurs, le...
C'est des mineurs...
Ouais.
Et Djoko est au milieu.
C'est Djoko que je cherchais. Donc on a Djoko et Zverev dans la même partie de tableau, et puis Sinner et Medvedev, et puis surtout Félix Auger-Aliassime qui est quand même le quatrième mondial, on va dire. Hein. Faut pas le mettre de côté.
C'est vrai qu'il
effectivement.
Est... Voilà. Je me souvenais plus qu'il était aussi. Ouais.
Donc voilà. Donc on pourra pas avoir par exemple un Sinner Djoko avant la finale. C'est un peu un des premiers enseignements qu'on peut tirer là, sur ce tableau. Quoi.
Est-ce que ça va devenir la finale, peut-être ?
Bah ouais, ouais. Donc intéressant. Après, bon, qui dit tirage dit premier tour, surtout les matchs de premier tour. Et là, il y en a quelques-uns qui sont assez alléchants, si on commence par nos amis les messieurs.
Oui.
Qu'est-ce que tu as coché, toi, Marine ?
Qu'est-ce que j'ai coché ? J'ai coché, déjà pour Gaël, mon fils. Voilà, on va quand même. César Tret, c'est son dernier. Mon fils qui joue Hugo Gaston.
Et oui, un duel franco-français.
On peut regretter le duel franco-français, mais je pense que ça peut donner un match assez sympa, sachant que les deux sont assez showman.
Bah là, on part sur une nocturne sur le Châtrier.
Ah bah, on est d'accord.
Clairement.
On est d'accord.
Clairement, voilà, la Night Session.
Sur Prime, quoi. Amazon Prime.
On a un Wawrinka fils.
Ouais, ça va être sympa. Ouais.
Ça, c'est une tête d'affiche.
Alors, on n'en a pas parlé d'Arthur fils.
Qu'est-ce qu'il nous fait là ?
Parlons-en un petit peu peut-être quand même. Qu'est-ce qui se passe autour d'Arthur Fils ?
La psychose.
Voilà, alors pour les auditeurs auditrices qui nous écoutent là, qui n'auraient pas suivi, Arthur Fils, on le rappelle, a abandonné à Rome.
Oui.
Voilà, en nous disant qu'il avait un petit problème à la hanche. Bon, voilà, c'était un petit peu les déclarations officielles. Mm. Suite à quand même à sa blessure grave, importante au dos, bah, tout le monde se posait la question. Mince, est-ce que c'est pas le dos qui recouine un coup, ce qui serait très embêtant, etc. Bon, lui nous dit non, c'est pas très grave. Et puis dans son entourage, non, c'est pas très grave. Bon, toujours est-il que depuis Rome, c'était la semaine dernière, eh bien, a priori, en tout cas, les journalistes les plus affûtés n'auraient pas vu Arthur Fils encore se réentraîner. Voilà. On sait qu'il est à Roland-Garros. Il a supporté un de ses amis là, pendant les qualifs, le jeune Quénin.
Voilà,
Quénin. Donc on sait qu'il est à Roland. Il y a eu une soirée spéciale là, pour Gaël Monfils hier soir. Arthur Fils n'était pas présent. Mm. Il n'a pas participé à cette exhibition qui a quand même rassemblé pas mal de joueurs et pas mal de joueuses. Bon, lui, il n'était pas là, ni dans les tribunes, ni raquette en main. Voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas s'il prépare Roland ou pas. On ne sait pas s'il s'entraîne ou pas. Enfin, il y a quand même un mystère, il y a un brouillard total sur Arthur Fils et sur son état.
Ouais, c'est clair. Et alors, il y avait un truc, j'ai vu passer un truc tout à l'heure. Apparemment, il était quand même programmé à 16h
oui.
À Jambouin, juste à côté de Roland-Garros, c'est pour taper la balle.
Ouais.
Donc, il serait quand même un moyen de taper la balle, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Ces derniers jours, là, autour d'Arthur Fils, on sait pas trop où il en est, quoi.
C'est très nébuleux.
Oui, tout à fait.
Bon, après, il avait dit qu'il avait abandonné pour se préserver pour Roland.
Mais non, mais oui. Sa communication était assez rassurante.
Oui.
Mais c'est vrai qu'après, dans les faits...
Le fait qu'il n'ose pas se montrer, que ce soit à la presse ou les entraînements sur le Châtrier, effectivement, ça peut poser des doutes.
Et du coup, après, l'emballement, quoi, la psychose. Quoi.
Il fait forfait, ça y est.
On y a pensé un temps. Hein.
Oui, on y a pensé. Puis bon, j'espère qu'on va pas en arriver là, surtout.
Hein. Ah bah,
ça serait franchement dommage.
Ça serait horrible.
Voilà. Et puis on espère, au-delà de ça, qu'il a pas réveillé une blessure méchante, quoi.
Mm-mm.
Bon, voilà. Donc on croise les doigts, on touche du bois pour Arthur Fils.
La
évidemment.
Table est en bois, je précise. C'est pour ça qu'il tape.
Allons-y. Donc voilà, premier tour très intéressant quand même contre Wawrinka.
Wawrinka,
c'est beau,
ça peut être très très beau. Qu'est-ce qu'on a encore d'alléchant ? En vrai, je trouve que c'est le tirage des Français qui est le plus alléchant. Pas trop pour eux. On a un Müller Tsitsipas.
Ouais, ça va être marrant.
Alors, ça peut être marrant, mais j'ai regardé les stats et pour l'instant, c'est 3-0 Tsitsipas.
Oui,
moins marrant.
ils se sont pas joués depuis quand ? Voilà, il y a le Tsitsipas d'avant et Tsitsipas d'aujourd'hui.
Ouais, mais il me semble que c'était juste l'année dernière, donc c'était pas non plus.
L'année dernière, Müller était plus en forme. Bon, on sait pas trop ce que ça peut
être. C'est Tsitsipas, c'est pas non plus. Ça va te faire plaisir, Richard.
Oui.
Silich Kwame.
Ah oui, alors ça,
le duel
c'est bien,
des générations.
Je l'attends pied ferme sur le cours Simone Mathieu, je le vois déjà celui-là. Ça
Papa
va être magnifique.
Simone Mathieu, toi ?
Je le vois sur le Simone Mathieu.
J'aime bien le 14, moi.
Tu vois le 14 ?
Oh, non.
C'est le 14, je pense.
Ah ouais ?
Ouais. Bon, écoute, on verra.
Oui. Alors, je vois ce que, je vois ce que tu veux dire.
C'est pas 14,
le 14, français, le 14 français, il est top. Quoi.
Ouais, ça va être blindé.
Mais on verra bien sur quoi il est programmé. Mais c'est intéressant ça. Qu'est-ce que j'ai noté de mon côté ? Moi, j'ai noté un Kokkinakis Atman.
Ouais.
Kokkinakis Atman.
Ça va être
vraiment
surtout,
marrant.
Lequel va repartir avec toutes ses raquettes.
C'est clair.
Ça va être fou. Kokkinakis, qui est vraiment le mec, t'as pas envie de tomber sur lui. Quoi. Il fait à peu près un match tous les 8 mois, mais il est capable de traverser un tableau. C'est fou, ce joueur.
Très,
c'est
très
talent gâché, ça, Kokkinakis.
Comme son homologue australien,
Kyrgios.
Ouais, mais bon, oui, c'est un peu vrai. Mais,
moins talentueux, peut-être, quand même.
Un petit peu moins talentueux, mais un peu gêné par les blessures aussi. Un peu moins foufou, quand même, Kokkinakis, peut-être.
Ouais, moins d'envie.
Moins d'envie. Plus nonchalant aussi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Différent. Mais voilà, en tout cas, ça nous fait des premiers tours assez cool.
Il y a un Bonzi Zverev quand même.
Bonzi, de toute façon.
Je voulais le souligner parce que Benjamin Bonzi, je trouve que quand les grands joueurs, ils peuvent faire des trucs de fou, notamment contre Medvedev. C'est vraiment l'exemple parfait où il a gagné une fois déjà, il a failli l'autre fois. Bon, voilà. Et contre un Zverev, voilà, est-ce qu'on peut vraiment comparer Medvedev et Zverev ? En vrai, ils sont pas si proches, si loin mentalement ou enfin niveau de jeu, c'est un peu voilà, c'est la même came. Donc je me dis, Benjamin Bonzi, est-ce qu'il ne sortirait pas la tête de série numéro 2 dès le premier tour ?
T'es en train de nous annoncer un prono là ?
Ah mais
ah bah ça serait beau.
Franchement,
ça serait beau. Je pense pas qu'il en soit incapable.
Ah oui.
À mon avis, il peut le faire.
Parce qu'il est carrément
capable. Il y aura match. Je pense que ça va être surtout Zverev quoi, pour son entrée dans le tournoi. Il risque de psychoter un peu, de baliser, flipper, de trembler, tout ce que tu veux.
Jouer en français dès le début, c'est dur.
Et Bonzi, je pense que le public, lui, ça peut le galvaniser, peut le transcender.
Carrément.
Mais effectivement, les trois premières têtes de série hein, chez les messieurs se sont tapées des Français.
Et oui.
Bonzi pour Zverev, Djoko qui joue contre
M.Petit Perica.
Ça va être quand même un match. Bon, à mon avis, ça va être à sens unique cette affaire.
Ça va être marrant, ouais.
Voilà, et puis Yannick Sinner, quand même, qui rentre tranquillement dans son tournoi contre Clément Tabur.
Ouais. Eh oui, Clément.
Voilà, la wildcard française.
Pauvre.
Ouais.
Voilà.
Bon, après, il est peut-être content de jouer le numéro 1 mondial, hein, qui sait.
Oui,
sur un grand cours.
Oui. C'est vrai.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas, hein.
C'est vrai que ça doit être une expérience quand même.
Ouais, je pense que c'est une belle expérience, à mon avis. Donc voilà, un petit mot sur les autres Français quand même, notamment les têtes de série, Corentin Moutet. Qui n'est pas loin de Sinner dans le tableau. Hein. Ça pourrait faire un troisième tour, ça. Moutet Sinner, il va jouer son premier tour contre Kopriva, le Tchèque. Arthur Hinderknecht, qui lui n'est pas en si mauvaise forme que ça en ce moment. Voilà, il rentre tranquillement contre un qualifié. Donc à voir qui s'appelle. On rappelle qu'on a quatre Français qualifiés.
C'est ce que j'allais dire, peut-être un Français,
Donc ça, c'est pas impossible du tout. Et Hugo Humbert, je le cherche dans le tableau, Hugo.
Il joue Manarino.
Il joue Manarino.
Encore un duel franco-français.
Ah ouais.
Bon, les deux vont perdre.
Voilà. On rappelle que Manarino n'a pas gagné un match sur terre battue depuis 1997 en interclub à Ermont-Aubonne. Voilà. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et puis, un autre Français, mais qui n'est pas Français, c'est quand même Valentin Vachereau.
Oui.
Vachereau qui peut faire des belles choses. Hein, qui va rentrer contre un qualifié. Lui, il n'est pas très loin de Medvedev dans le tableau.
C'est clair.
Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Vachereau qui sera à surveiller, à mon avis. Hein.
Il y a Quentin Lys aussi, pas très loin de Zverev, tout en bas.
Oui, un potentiel de troisième tour.
Ouais, ça peut, oui.
Bah, Quentin Lys qui d'ailleurs jouera le gagnant de Humbert et Manarino.
Bah, s'il gagne.
Oui. Voilà.
N'allons pas trop vite en besogne.
On va pas aller trop vite en besogne, mais...
voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le tableau, messieurs. Quelque chose à rajouter, Enzo ?
Pour moi, c'est bon.
Chez les femmes ?
Allez,
chez les femmes. Tiens, on en parlait, Elina Svitolina, je vois son nom là tout de suite, qui va commencer son tournoi contre Anna Bondar, la Hongroise. Svitolina qui est dans la partie de tableau de Rybakina. Voilà, donc ça peut être une demi-finale, ça. Rybakina, Svitolina. Oui. Dans cette partie de tableau, on a aussi quand même une certaine Iga Swiatek.
Ouais, attention.
Avec un potentiel troisième tour.
Contre Ostapenko.
Ouais, ça va être
la bête noire de Swiatek.
Ouais, donc ça peut faire du Swiatek Svitolina en demi-finale. Ça peut faire du Andreeva Rybakina en quart de finale, pardon, excusez-moi.
Il y a beaucoup de monde dans cette partie.
Ouais, il y a du monde, parce que du coup, si on regarde de l'autre côté, on va évidemment trouver la numéro 1 mondiale, Sabalenka. On va retrouver Anisimova. évidemment, l'américaine. Mmh. Coco Gauff est du côté de Sabalenka. Naomi Osaka, quand même, nommons-la.
Osaka, oui. Ouais.
Nommons-la, hein, qui est pas très loin de Sabalenka.
Qui joue Sigmund.
Ah, ça va être un match.
Le traquenard.
Ah, le traquenard. Pour les deux, hein. Je pense que c'est
oui.
un traquenard pour
ah,
les deux.
Oui,
ça.
Oui, oui.
Mais Sigmund, évidemment, que mon cœur, je le dis, sera allemand le temps de cette rencontre. Laura Sigmund, 38 ans, toutes ses dents, service volé, slice de revers. Magnifique, une balle qui s'écrase, l'attaque. Superbe. Et la petite Alexandra Ehala, voilà, une petite jeune qui monte, on en a déjà parlé aussi, qui est pas très loin de Sabalenka. Voilà. Chez les Françaises. Parlons un petit peu des Françaises quand même.
Chez les Françaises, le tirage
bah oui,
français.
Loïs Boisson.
Est-il mieux
déjà.
Chez les Françaises que chez les Français ? Non.
Loïs
Boisson, qui joue la top, enfin la tête de série numéro 22, Anna Kalinskaya. Très gros premier tour globalement pour Loïs. Hein. Là, vraiment.
Bah, oui,
ça sera un très très bon test, une très bonne mise en bouche.
Bah, mieux vaut qu'elle tombe sur la 22 que sur Sabalenka ou sur Swiatek.
Oui,
ou
oui,
sur,
oui,
voilà,
oui.
Hein, ça c'est sûr.
Mais ça reste pas vraiment un cadeau, quoi.
Non, non, donc, c'est pas un cadeau. Mais l'avantage, c'est que si elle bat Kalinskaya, bon, le tableau s'ouvre hein, quand même. Hein.
Oui.
Oui, derrière, c'est
plus. Il y a Potapova qui n'est pas très très loin, mais le reste, c'est faisable.
Bah oui, derrière, elle a quand même 2-3 tours peut-être à sa portée, mais bon, faut déjà qu'elle gagne un match. Notre ami.
Effectivement, ça commence par là.
On y croit, Loïs.
Ben voilà quoi. Hein. Donc après, voilà, Elsa Jacquemot qui pourrait rencontrer Sabalenka au deuxième tour. Ça peut être intéressant.
Ouais, il faut qu'elle gagne son premier tour.
Ouais. Oui,
en ce moment, gagner un match pour Elsa Jacquemot, c'est compliqué.
Ah, ça va, elle sort contre une qualifiée. C'est faisable.
Ouais, ouais c'est faisable. Ouais. C'est faisable. Mon ami Diane Paris au revers.
Diane Paris, oui.
Léché.
Diane Paris, qui a gagné le trophée Clarence. Qui a gagné à Paris là, le petit WTA 125.
Bah voilà,
ah bah
nouvelle
voilà.
Ça.
Et qui a fait Paris. Un bon Strasbourg. Mmh. Vraiment pas dégueu.
Et qui a fait un bon double mixte hier à la soirée de l'émission de Gaël Monfils.
Ah bah en même temps,
elle a joué avec Sinner.
Ouais, elle a joué avec Sinner. Bah oui, oui.
Ça aide hein, quand même.
Ouais,
oui,
pas
c'est clair.
Ça aide.
Donc Diane Paris qui jouera l'Ukrainienne Kalinina.
Mmh. Pas simple.
Pas tête de série, je crois, mais. Petit traquenard quand même.
Oui, qui a été top 25.
La... Ouais, faut pas la sous-estimer.
Surtout sur terre.
Après, non, on peut avoir des Françaises au deuxième tour. Hein. Léolia Jean-Jean qui joue une qualifiée. Je pense à Clara Burel qui joue Volinets, l'américaine, au premier tour, qui n'est pas tête de série. Ça, c'est quand même dans ses cordes. Premier tour intéressant, peut-être quand même entre Andreeva, ta chouchoute, Enzo contre une Française.
Et Fiona
Ferro.
Ouais.
Ouais.
Ça
joli premier tour, franchement.
Premier tour, ouais, moi je serais curieux de voir un petit peu ce que ça va donner.
Et il y a le premier tour aussi de la jeune.
Ah bah oui, notre
manga.
Pépite.
Sarah.
Ah, c'est... Non, on parle pas de la même, pardon.
Oui, non, ouais, la jeune wildcard. Non, Rakuto Manga.
Ah, Sarah.
Ouais, elle a quoi, elle a 17 ans, 19 ans 20
19,
ans
je crois.
Ouais, voilà.
Alors, entre 15 et 25.
Voilà, entre 15 et 25.
Elle est jeune.
Une française en vrai, prometteuse, qui malheureusement jouera Amanda Anisimova pardon, au premier tour.
Bah oui, pas facile.
Belle entrée.
Pas facile.
Belle entrée, mais beaucoup d'expérience, je pense, à en tirer.
Sur terre, pourquoi pas.
Et match compliqué aussi pour, on allait en parler, donc de Xenia Efremova.
Efremova,
notre
grand
espoir féminin. Bah non, mais c'est vrai. Hein,
oui, oui, non, mais oui, oui. Non, non, mais
c'est un vrai espoir. Hein.
Non, mais je sais.
Et qui a gagné l'Open d'Australie Junior cette année.
Oui. Bah voilà, et qui est donc wildcard ici à Roland-Garros pour ce tableau féminin. Et donc, il va jouer contre, on en parlait tout à l'heure, Sirstea, la Roumaine, tête de série numéro 18.
Voilà, tout à donc, fait.
Ça va être un choc des générations, ça.
Ah bah là, oui, là, on peut en parler.
Ouais, Efremova, je ne sais plus quel âge elle a, 16, 17 ?
Ouais, 17, je crois. Je crois qu'elle vient d'avoir 17 ans.
36 pour Sirstea. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les femmes. Tableau intéressant. T'y crois, toi ? Tu crois en Swiatek, par exemple, pour son
bien
tableau ?
Bien sûr,
bien sûr. Bon, la discussion n'a pas besoin de le faire. Ça, c'est merveilleux. Écoutez, si vous le voulez bien, je vous propose que cette fois, nous passions au prono.
Ah.
Est-ce qu'il y aura une surprise ou pas chez les hommes, par exemple hein? Est-ce que quelqu'un d'autre réussira à remporter Roland-Garros que Yannick Sinner? Je te pose la question, Marine.
On a envie de dire oui, quand même.
T'as envie de dire oui?
Ouais.
Ah bah dis oui.
Oui.
Alors oui, mais alors qui?
Qui? Bah ça, c'est la grande question. Tu veux prendre le vainqueur, là, comme ça?
Oui, moi je pars sur le vainqueur.
Waouh, tellement de pression.
Ou le finaliste. Allez, on part du principe que Sinner va aller loin, en toute logique.
Bah oui, ou alors il peut s'arrêter face à une vraie surprise. Pff, et encore, il n'y a pas vraiment grand
Dans sa partie de tableau, une vraie surprise. Bublik.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et en même temps, Bublik en ce moment, bof.
Mais voilà, au Jeliassim, il peut sortir des très bons matchs, mais j'y crois pas. Medvedev, mais bon, ouais, ça serait une demi-finale, peut-être. Peut-être.
Oui, parier sur Medvedev sur Terre, c'est toujours quand même.
Non, moi je vois Sinner aller quand même au moins en finale, vu sa partie de tableau.
Ouais.
Et de l'autre côté, c'est compliqué. Est-ce que Djoko, est-ce que Rude, il y a Rude. Hein. Moi je mettrais bien une petite pièce sur Rude pour la finale.
Perso, j'ai mis Rude en finale aussi.
Ben voilà, on est deux à être d'accord avec Enzo. Allez, moi je dirais une finale. Je ne mettrais pas encore le nom du vainqueur, tiens. Sinner Rude pour moi.
La même finale pour moi.
La même pour Enzo.
Ouais, je vais peut-être vous rejoindre.
Tu serais d'accord, on ferait un tout pile.
Oh bah dis donc.
Allez, on fait un tout pile.
Rude Sinner en finale de Roland Garros, nous sommes trois à être d'accord. Oh là, ça c'est du jamais vu dans l'histoire de pleine balle.
Ça sent la finale Mpetchi Péricard Copriva.
Daphné.
Daphné, évidemment.
Chez les femmes. Alors chez les femmes, bon moi c'est mon cœur qui parle, vous savez que je l'aime bien. Moi j'ai envie de voir Svitolina en finale.
Oui, ça c'était évident.
J'en ai envie. Toi aussi Enzo ?
Pareil.
Oh là là, bon, on est tous d'accord.
On est sur du tout pile.
Je ne vais pas vous suivre.
Ah, tu partirais sur qui alors de ce côté là ? On rappelle dans cette partie de tableau, nous avons Rybakina.
Oui, mais il y a Iga aussi.
Il y a Swiatek. Voilà, toi tu vois Swiatek aller jusqu'en finale ?
Moi je vois Swiatek aller en finale. Le seul problème
comme par hasard.
Ça me dérange, c'est qu'elle est sur la même partie que Mourova. Et Mourova, je la voyais en finale aussi. Donc.
Diantre.
Ça me dérange. Mais je vais quand même mettre Iga.
Ok. Swiatek, nous on a dit. Svitolina, et puis de l'autre côté, moi je ne vois pas Sabalenka aller en finale.
Moi non plus.
Et ouais, là je suis un peu plus contrarié, je ne vois pas aller en finale. Ne vois pas non plus Sigmund aller en finale.
Ah.
Est-ce que la tenante du titre ira défendre son titre, selon toi ?
Peut-être.
Peut-être ?
Qu'est-ce que t'en dis, toi ?
Une finale Coco-Swiatek, en vrai
Non, moi je dirais plus Coco-Svitolina.
Oui, enfin, de mon côté. Alors, ma finale de rêve, c'est Osaka-Swiatek. Mon rêve ultime.
Bonne année 2020.
Bon, et moi, je reste là-dessus. Gauff-Svitolina, finale. Enzo.
Moi, je mets quand même Sabalenka, parce que, en fait, je vois pas... Je te rejoins, je me dis qu'elle peut tomber avant la finale,
oui.
Mais je vois pas contre qui, en fait. Je trouve que toutes les joueuses qui seraient susceptibles, de lui poser des soucis sont de l'autre côté.
Ouais. Je trouve que vraiment, ça part. À Rome, quoi.
Ouais, c'est ça.
Il y a quand même Osaka.
Il y a Osaka,
Osaka en huitième ou en quart, Osaka.
Ouais. Mboko qui peut être surprenante.
Mboko, ouais, je sais pas.
Ouais, moi, je pense qu'il y a moyen, quand même, hein.
Je reste sur Sabalenka.
Ok, et toi, Sabalenka aussi ?
Ben non, moi je vais mettre Anisimova.
Anisimova ?
Ouais.
Ouf.
Anisimova Swiatek la finale.
Contre Swiatek. Oh là là, ça
prend. Et la double bulle de nouveau.
Et ben nous verrons ça, tiens. Allez, on enchaîne, et puisque tu en parlais de Mourova, je te propose que tu nous fasses un petit topo sur Carolina Mourova.
Au-delà de ta concentration, devient facile.
Eh ben oui, de retour pour faire un petit tunnel sur une de mes chouchoutes, ce qui me permet en plus de réaffirmer au combien le tennis féminin est incroyable. Alors, à la grande surprise de vous tous, on retourne en Europe de l'Est, mais on quitte la Pologne quand même. Je me diversifie, voilà, vous êtes là, je me diversifie. On reste quand même pas très très loin vu qu'on est quand même sur un pays frontalier, mais ça c'est pas ma faute. Oui, la République tchèque, ça touche la Pologne, mais je vous jure, c'est pas fait exprès.
Non, on te croit.
Voilà, on me croit, merci beaucoup.
Si donc, tu le dis, oui, on te croit.
Bah oui, attends, donc Carolina Mourova, 30 ans cette année quand même, et une carrière assez clean, je trouve. Son évolution plutôt progressive, début de carrière pro en 2014, percée dans le top 50 en 2019, ça va. On en connaît qui font le parcours inverse et qui descendent aux enfers. Je ne citerai pas de nom, bien évidemment. Même si, selon un proverbe grec, taire la vérité, c'est enfouir de l'or.
C'est bon.
Voilà. Bon, aujourd'hui, je ne me sens pas archéologue, donc je ne vais rien dire. Et le fait d'utiliser un proverbe grec n'a absolument aucun lien avec un quelconque exemple d'un joueur qui descend aux enfers. S'il vous plaît, croyez-moi bien.
Oui,
c'est
oui.
Sincère. Voilà.
D'accord, on te croit.
Revenons-en à nos moutons. Parce que bon, parler des Grecs, voilà. Pourquoi Mourova serait-elle une joueuse à suivre ? Bah, déjà, elle a montré de très très bons résultats, notamment en Grand Chelem, où elle a pu atteindre demi ou quart de finale plusieurs fois, et même, le monde s'en souvient, la finale de Roland en 2023, où elle bataille, mais finit par perdre en 3-7. contre une voisine. Vous vous souvenez
Oui. Une Polonaise.
Une Polonaise, voisine. Bah, Iga, bien sûr.
Bien sûr.
Très bonne copine, hein, d'ailleurs, avec Iga, les deux. C'est vraiment comme cul et chemise, comme on dit. Elle a déjà dit que c'était une de ses besties sur le circuit. Et en même temps, bon, on la comprend. Franchement, une très bonne team. Moi j'attends le double. Voilà. Roland en double, les deux là, ça serait mon dream, comme on dit en Angleterre. Mais bon, je m'égare. On a dit deux bons résultats, ok, ça veut dire qu'il y a de quoi faire, ok, ok. Ce fut d'ailleurs le cas donc, des victoires cette année. Elle a quand même gagné le Masters 1000 de Doha, qu'on aime beaucoup, c'est pas dégueu. Deuxième titre en carrière, son premier remontant à 2019, donc il était un peu temps qu'elle regagne quelque chose. Belle ascension pour Mourova. Et outre un beau parcours, bah, je trouve que c'est une joueuse qui se démarque beaucoup par son style de jeu. Alors, on entend beaucoup de critiques aujourd'hui, comme quoi tous les jeux se ressemblent, que c'est que du boum-boum de fond de course sans vraiment de magie. Ça peut être des critiques un peu louables quand on a connu l'époque Federer-Nadal-Djoko. Et bien justement, Mourova, elle se démarque avec un style très varié. Elle alterne facilement entre slice, amorti, montée au filet, et puis une technique franchement admirable, et surtout une très bonne technique, une très bonne lecture de jeu. De bonnes stratégies de jeu, une très bonne tactique, donc franchement ça donne un tennis très très plaisant à voir. Et d'ailleurs elle a été plusieurs fois surnommée la Federer du tennis féminin. Mais oui, justement pour son jeu très très créatif et très élégant, il faut le dire. Et puis Federer qui du coup faisait partie de ses plus grandes inspirations, agressivité, élégance, des maîtres mots de son tennis finalement. Et puis bon, sans trop pousser les analyses, elle est très stylée, quoi.
Ah, ça y est, on y revient.
Ah oui. Bandeau, tresse, tenue impeccable, comportement impeccable. Je pense pas me tromper en disant qu'elle fait partie des joueuses les plus appréciées sur le circuit. Et en même temps, bah voilà, elle est calme, elle est cool. Askip, elle fait de la guitare aussi.
Askip, hein.
Ouais, donc
on n'est pas sûr, mais Askip.
Ouais, selon les annales de l'année dernière, la guitare, donc ça renforce son côté un peu cool. Et puis, bon, petites anecdotes aussi, elle a fait plein d'autres sports avant le tennis. Alors, elle a enchaîné, elle a fait handball, hockey sur glace, patinage artistique et même de la natation synchronisée.
Waouh!
Ultra aléatoire.
Wow.
Mais est-ce que ça n'aurait pas forgé son jeu fantastique? Peut-être.
Peut-être.
Saint-Terne dirait ça. Et puis, bah, quoi donc pour la stopper? Bon, bah, là-dessus, elle n'a pas fait dans l'original, hein, les blessures finalement. Alors, abdominaux, ouais. Chevilles, poignets, on en parlait tout à l'heure, bah, une victime de la douleur au poignet. Opération pour remédier à ça, et en fait une reprise assez difficile, une convalescence un peu compliquée, donc une reprise un peu à tatillon, mais fort heureusement, vraie guerrière, elle revient toujours. Alors on espère qu'elle va continuer sur cette lancée, et pourquoi pas eh ben, faire venir être la trouble faite en fait dans le top 5, qui je pense est largement accessible au vu de son beau tennis. Là elle est top 10, donc le top 5, franchement fin d'année, c'est grave possible quoi.
Mourova,
une joueuse à suivre, moi je vous le dis.
Tu nous le dis?
Ah oui, oui, oui.
Tu nous le dis, je tu nous le répètes?
Je vous l'affirme, Mourova, Carolina de son prénom, à suivre.
Tu le signes?
Je le signe.
Tu persistes? Ah oh là là, ok. Eh ben merci pour cette belle présentation de Carolina Mourova. On va voir évidemment ce qu'elle va nous faire en Roland Garros. On va la suivre assidûment. Et on va pas refermer cette émission sans notre page normande. Et oui, notre page... T'es encore en train de boire?
Oh, mais bah, j'ai parlé.
Oui, c'est vrai que t'as parlé. Et voilà, donc on pouvait évidemment pas éviter de parler de Daniel Jade. Et oui, et on oui, a parlé tout à l'heure des qualifications. Donc on l'a mis de côté exprès pour finir l'émission là-dessus. Daniel Jade, notre espoir français, mais surtout notre espoir normand, oui. Le Rouennais, qui a donc effectué ses premiers pas sur les cours de Roland-Garros en qualification. Lui qui a été invité, parce qu'il est au-delà de la 1000e place, quand même, hein, Daniel, 17 ans, Dany, voilà, et Vlatipa qui a même gagné un match durant ses qualifications. Et toi, en plus, tu étais aux premières loges, Enzo.
Ah, j'étais vraiment au premier rang.
Dans l'angle de la caméra.
Exactement, on ne pouvait pas faire plus près du court 14. Non, franchement, c'était trop, trop cool à voir ce match de Daniel Jade contre un autre Daniel.
Un autre Dan, ouais.
Et ouais, Dan Evans, rappelez-vous... ce Britannique dans le texte.
Ah, hein, c'est pas un inconnu, hein, Daniel.
Ah bah non. Ouais.
Ancien top 20 ou top
21, 30 j'ai regardé.
21,
son meilleur classement. En 2023 en plus, donc c'est pas très vieux. Hein. Et ouais, non, franchement, un match assez incroyable avec une opposition de style vraiment marquée. On connaît Dan Evans, hein, son choc de tout.
Voilà, un joueur offensif, volleyeur. Ouais. Alors comment est-ce qu'il joue, Daniel Jade? Parce qu'à mon avis, on n'est pas très nombreux à le connaître.
Eh bien, justement, pour ceux qu'il avait déjà vu un petit peu, vraiment conforme à ce qu'il a montré déjà sur le circuit junior, déjà une énorme frappe de balle, surtout côté coup droit. Il n'a pas forcément un gabarit impressionnant, hein, il doit faire un 80 à peu près, pour vous donner une idée. Mais un moulin côté coup droit, c'est assez fou. Revers perfectible encore. Là, je pense qu'il y a une...
Voilà. 17 ans. Hein.
Et c'est 10, ouais. Tout à fait normal. Il n'a que 17 ans. Mais ouais, non, franchement, un match assez fou. Porté par le public du cours 14. Porté par les représentants de la Ligue de Normandie qui étaient bien là, bien présents au premier rang, là aussi, pour soutenir leur poulain. Et franchement, ça avait... ouais, plaisir à voir, quoi. Plaisir à voir pour lui. Il s'est sorti d'un match piège, en plus. Interrompu par la pluie. Je sais de quoi je parle, j'étais trempé. Contrairement à Marine qui était bien au chaud
sur le châtrier,
sous le toit. Bref, mais non, franchement, bravo Dani. Une superbe première expérience en Grand Chelem. Et puis, franchement, on lui souhaite de rééditer ça, pourquoi pas, sur le tournoi junior.
Bah,
puisqu'on va le revoir.
Voilà, il sera là. J'ai vu qu'il faisait un tournoi entre deux.
Oui, en plus.
Voilà, là, il part.
Inarrêtable.
Pour revenir.
Ouais, il part pour revenir.
Chapeau le cowboy, quand même.
Ouais, franchement, bravo.
Pas mal, hein.
Voilà. Non, franchement, force
donc, Daniel Jade, un premier match contre Dan Evans et ensuite deuxième tour là il s'éteint.
Ouais. Je sais plus contre qui c'était son deuxième tour.
Eh bien je ne sais plus non plus.
je vais être honnête, je me rappelle plus. Je vais aller regarder ça de suite.
Mais en tout cas voilà, il a perdu son deuxième tour. C'était déjà une belle surprise de réussir à battre Dan Evans.
Oui.
Voilà, puis il est pas tombé contre le joueur le plus simple à jouer.
Non, c'est clair.
Impressionnant. Et puis voilà, Dan Evans, c'est un mec qui aime bien aussi jouer avec le public aussi. Voilà, et c'était vraiment des conditions pour un baptême du feu là, c'était assez exceptionnel. Et de le voir s'en sortir comme ça, j'ai été assez bluffé. Donc bravo Daniel Jade, et je pense que ça présage de très 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 belles choses. Il a perdu contre qui au deuxième tour?
Holmgren, le Danois.
Oui, le Danois, voilà. Bah, qui est pas un mauvais joueur non plus.
Non, hein, qui est 150.
Top 200 depuis un petit moment.
Ouais.
Il est sorti des qualifs, lui?
Bonne question.
Il a rejoué aujourd'hui, mais il a peut-être perdu.
Je vais te dire ça. Non, il a perdu.
Il a perdu.
Voilà, sort
de troisième tour.
Tout va bien.
Gâché.
Non, mais voilà, bravo à Daniel Jade, ça c'est sûr.
Ouais.
À suivre pour ce tournoi junior, en tout cas on va se régaler. Roland Garros qui est déjà plus ou moins commencé, mais qui commence pour de bon dimanche avec les premiers matchs du tableau, des deux tableaux principaux. Et puis évidemment, bon, Simon n'est pas là, il nous aurait parlé du tournoi de double avenir. Quel dommage, on rate quelque chose, mais il nous fera un beau débrief
évidemment
dans deux semaines.
Elles sont pas sorties les paires de double?
Si. Non, pas encore.
Ça me dit rien, je crois pas.
Pas encore. Donc non, double messieurs, double dames, double mixte. Voilà, ça va être encore une régalade, porte d'Auteuil. On va se faire plaisir. Et en plus, le week-end commence sous une météo idyllique.
Est-ce qu'on se referait pas une ligue de pronos là sur l'appli Roland Garros comme l'année dernière?
Ah.
Balance ça comme ça. Hein.
Faut que je peaufine mon jeu, mais ok.
Allez.
Okay. Igaz Viatek, pardon.
Oh là 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 là.
Je remets mon titre en jeu.
Okay, on va faire ça. Et bien sur ce, messieurs, dames, Enzo, merci à toi pour... Oui, il est parti fort celui-là.
Ouais.
Il est parti fort, voilà, j'avais de l'entrain.
Un grand merci à Enzo qui a joué vraiment à tous les métiers ce soir.
Je fais ce que j'ai pu.
Il était à la régie, il est au micro, il est partout. Fabuleux. Je pense qu'Emile a du souci à se faire.
Non. Emile, ton poste est bien là, t'inquiète pas.
Le fauteuil l'attend, évidemment. Merci à vous deux, merci Enzo, merci Marine.
Merci
à vous.
Bon week-end à tous.
Et mais surtout, oui, bonne soirée.
Bon Roland, c'est évident. Allez, ciao.